15h. De passage à Lourdes. De passage à Lourdes.
Oui, et nous recevons aujourd'hui le père Didier Noblot. Bonjour père.
Eh bien bonjour, bonjour aux auditeurs.
Vous êtes curé, prêtre du diocèse de Troyes, vicaire épiscopal, mais c'est surtout au titre de cette responsabilité nationale que vous avez, que vous assumez, directeur national adjoint du service des vocations et de l'évangélisation des jeunes. Je ne sais pas si je le dis dans le bon ordre.
Alors c'est presque dans le bon ordre. Les évêques de France, il y a un peu plus de 5 ans, ont voulu faire un service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations.
D'accord.
En se disant qu'une pastorale des vocations, elle est pour tous, elle est pour les familles, les paroisses, et le pape vraiment nous rend attentif à rappeler que la question de vocation est pour tous. Mais la pastorale des jeunes est vocationnelle, ou elle n'est pas. Et c'est pour ça que les évêques ont voulu associer jeunes et vocations, une pastorale des jeunes, et on le voit à Lourdes, tous ceux qui accompagnent des groupes de jeunes ont la passion de leur permettre cette rencontre du Christ, et la passion de leur permettre d'entendre Dieu qui les appelle.
Lorsque l'on parle de vocation, on pense immédiatement aux vocations sacerdotales, aux prêtres, aux vocations de prêtres. Et en France, il y a, je crois, environ 12 000 prêtres, sans ordination, bon an, mal an. On a envie de vous dire, si on fait de l'évaluation quantitative, ouf. Alors, vous êtes en difficulté, cher père.
Et je pense qu'un certain nombre d'auditeurs de Radio Présence s'en sont rendus compte. Il y a moins de prêtres qu'il y a quelques années. Et pour ceux qui connaissent la vie de l'Église, trouvent qu'il en manque. Et puis ceux qui connaissent moins, peut-être s'étonnent des fois à telle célébration de voir des baptisés accompagner leur célébration de funérailles. Il manque des prêtres et il y en a de moins en moins. Et encore pendant quelques années, il y en aura de moins en moins. Parce que, vous le dites, le ratio entre le nombre de prêtres, leur âge, les décès et les nouvelles ordinations... Voilà, il y a assez indiscutable. Ceci dit, l'Église catholique en France est belle et très dynamique, et j'en suis témoin dans la pastorale des jeunes. Il y a des renouveaux, il y a de l'énergie, et des garçons et des filles choisissent à répondre au Christ. Alors, vous disiez à l'instant, on pense vocation, on pense prêtre. Et on a raison. Ceci dit, il faudrait faire un tout petit retour en arrière. Tous nous avons une vocation dans la perspective chrétienne. Tous nous sommes appelés à la sainteté et par le baptême, nous avons cette vocation baptismale à rencontrer le Christ. Et le pape rappelle notamment que le mariage est une vocation et on pense à tous ceux qui peuvent être tentés par cette vie conjugale. Ceci dit, en France, les évêques ont choisi de confier au service diocésain des vocations le souci d'appeler au ministère de prêtre et à la vie consacrée.
Nous parlerons tout à l'heure de la perspective du synode d'octobre 2018. Le pape a appelé, le pape François, à ce que les jeunes s'expriment, parlent et disent ce qu'ils ont sur le cœur, et en particulier sur les questions de foi et le discernement vocationnel, justement. Nous en parlerons tout à l'heure. Mais continuons avec vous, père Didier Noblot, sur l'évaluation de la situation. Vous nous disiez, l'Église de France, ou les catholiques en France, ils ont plein de vigueur, il y a plein de vie, il y a des pouces partout. On a parlé chiffres. Bon, si on devait aujourd'hui regarder d'un peu plus près, qui sont ces jeunes qui disent « je veux devenir prêtre » Est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on a essayé de faire une sorte de typologie entre
Un petit portrait robot.
Un portrait robot.
Candidat au ministère de prêtre. Oui, on peut très vite voir. En France, il y a autour de 870 séminaristes en 34 maisons de formation. Leur profil est assez simple aujourd'hui. Ce sont plutôt de jeunes adultes qui ont autour de 23 à 24 ans, qui sont plutôt urbains, avec des études secondaires à bac plus 3 ou bac plus 5, devenant de familles nombreuses et plutôt dans une sociologie d'économie plutôt plus favorisée que la moyenne nationale. Ça, c'est le profil type. Il y a toutes les exceptions, tous les parcours uniques et singuliers. Parce que, bien sûr, comme sociologue, on voudrait faire des bons profils. Avec un petit nombre de séminaristes, on pourrait dire que chaque parcours est singulier. Chaque parcours est unique. Et vouloir mettre des candidats à la vie de prêtre dans des cases, ce serait un petit risque. Et on le voit à Lourdes. Bon, on connaît bien l'itinéraire de Bernadette à Lourdes. Il est singulier dans les jeunes filles de Lourdes. L'itinéraire d'un jeune futur prêtre est singulier, unique, marqué par des allers-retours, des hésitations, des doutes, des enthousiasmes, des personnes sur la route qui relaient l'appel de Dieu, et ce qui fait des profils d'hommes très missionnaires, très volontaires pour annoncer le Christ. Dans une société qui parfois en parle moins, au moins selon ce qu'ils perçoivent.
Et une des clés aussi, sans doute, des vocations, c'est le témoignage des prêtres, ceux qui sont là, sur le terrain, chaque jour que Dieu fait. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui que les jeunes qui frappent à la porte doivent voir des prêtres heureux et que sans doute là aussi, il se passe un message qui est au-delà de la théologie et au-delà de tout autre message?
Et au moins pour trois raisons. D'une part, parce que la vocation de tous, et même des prêtres, c'est d'être heureux. Et
oui.
Donc un homme, même s'il est prêtre qui serait malheureux, il faut chercher avec lui. Bah, voilà. Si on dit oui au Christ, si on dit oui à la vie, c'est pour être heureux. Mmh. C'est cet appel au bonheur qui nous met en route. Et bien sûr, alors ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le témoignage joyeux est un témoignage qui enthousiasme, qui donne envie de suivre. Le Christ était un homme heureux. Il a eu des doutes, il y a eu des souffrances, mais c'était un entraîneur d'hommes. Il a construit cette équipe et les Pierre, Jacques, Jean, Marie-Madeleine, Marie... elles ont voulu le suivre. Et bien sûr que le témoignage de ceux qui ont dit oui au Christ est important et il donne envie. Et puis, la troisième raison, c'est une sorte de vie quotidienne. Aujourd'hui, beaucoup de diocèses manifestent le fait que c'est essentiel qu'il y ait une vie quotidienne avec les religieux, religieuses consacrées et prêtres pour que les jeunes générations puissent découvrir cette façon de vivre son baptême, cette façon de dire oui au Christ dans le célibat consacré, dans la vie de prêtre, dans la consécration religieuse.
On parle là du bonheur d'être prêtre, mais vous qui êtes curé de paroisse, vous savez combien le prêtre aujourd'hui, bon, il a la pression, c'est pas simple, ses journées sont remplies. Parfois, il y a beaucoup d'exigences qui lui remontent. Il est seul, il peut être seul.
Alors tout ça, c'est vrai, et en même temps, c'est pas tellement original. Regardez un père de famille avec deux ou trois enfants, qu'à son temps d'emploi, qu'à son travail, on pourra dire la même chose. Je crois que les prêtres participent de la culture d'aujourd'hui. Il y a des tâches à faire, il y a des personnes à rencontrer, il y a le souci de l'équilibre de vie personnelle, mais c'est déjà une joie de pouvoir vivre sa foi dans tout ce qui fait le ministère du prêtre. Le concile s'était pas trompé dans les années 65, une grande réunion d'évêques à Rome, où on a un texte sur les prêtres qui dit « ministère et vie des prêtres »,« service et vie du prêtre ». Ça, c'est lié. On a une sorte de vie pleine. Notre vie de prêtre, notre passion d'avoir donné notre vie au Christ et aux hommes, eh bien, se déploie dans cette forme originale. Alors, on dit « les prêtres sont seuls ». Les prêtres ne sont pas isolés. Nous rencontrons de nombreuses personnes. Et moi, je rencontre plutôt des prêtres qui sont attentifs à garder du temps pour prier, pour l'adoration, pour le silence, pour une course en montagne. Ici, dans les Pyrénées, c'est facile. Pour que ce souci missionnaire, il soit vraiment un souci joyeux et pas justement dans l'écrasement des tâches. La vocation du prêtre, c'est pas déjà l'accumulation de tâches, c'est répondre au Christ dans cette consécration pour porter ce peuple près du Christ, notamment les curés. Les curés, leur mission, c'est la formation des chrétiens et le souci de la communion, que cette portion du peuple de Dieu qui est donnée, eh bien, vivre la fraternité qui change le monde.
Sur une centaine d'ordinations chaque année, ces jeunes prêtres sont ordonnés pour être diocésains ou bien entrer dans des logiques plus religieuses, j'entends des communautés, oui, ou des congrégations.
Cette année, au mois de juin 2017, il y a eu une centaine d'ordinations, dont 80 étaient des ordinations de prêtres diocésains. Et puis ensuite, ce sont des prêtres pour des sociétés de vie apostolique, pour des religieux, des prêtres qui sont dans des communautés. Voilà, il y a toute cette diversité. Et c'est une chance, cette diversité. Un jeune homme ou un homme mûr qui est tenté par cette vie donnée comme prêtre, c'est vrai qu'il y a plusieurs formes pour dire oui au Christ dans la vie de prêtre. Mmh. La vie religieuse, la vie diocésaine, une vie de communauté. Et c'est cette diversité qui est une chance.
De quelle diversité vous parlez? De la diversité visible, l'habit, soutane, pas soutane, col romain, pas col romain, ou la diversité spirituelle, les chapelles diverses et variées?
Alors, je pensais déjà à la diversité des charismes. Il y a plusieurs façons d'exercer une vie de prêtre dans l'Église depuis des siècles, et c'est vrai aussi aujourd'hui. On peut être prêtre en ayant choisi la vie religieuse. On vient de fêter Saint-Dominique, ou on fêtera Saint-Dominique dans quelques temps. On fêtera un certain nombre de grands saints fondateurs. Et donc, on peut choisir la vie religieuse, et au cœur de cette vie religieuse, on est prêtre. On peut choisir une vie de prêtre qui ne soit pas déjà marquée par la vie de curé, mais une vie de présence, comme dans la Mission de France ou chez les Lazaristes. Ou, voilà, certains sont curés, mais il y a un déploiement possible de sa vie de prêtre. D'autres sont attentifs à une vie communautaire. Et on sait que certaines communautés nouvelles proposent à leurs candidats, à leurs séminaristes et aux prêtres, de vivre à deux ou trois C'est déjà ça qui est un fondement. Et ensuite, ils se sont envoyés à deux ou trois pour être prêtres dans une paroisse ou dans un diocèse à l'appel d'un évêque. Et puis, il y en a d'autres. Leur attachement, c'est un terroir. C'est une réalité diocésaine. C'est des hommes et des femmes qui vivent sur un territoire. Et ceux-là, c'est des prêtres diocésains qu'on connaît aussi beaucoup dans les paroisses et qui accompagnent les joies, les peines et la vie des familles d'une paroisse.
En 2014, à Lourdes, il y a eu ce beau pèlerinage des séminaires de France. Là, on a vu sous nos yeux, pour ceux qui étaient là présents en tout cas, la diversité, justement.
Et quelle richesse !
Mais richesse et en même temps concurrence parfois.
Eh bien, c'était, je pense.
Différence assumée vraiment ?
Je pense que c'était un des grands fruits de ce pèlerinage des séminaires en 2014. Il y a des miracles à Lourdes. Il y a qui sont déclarés au bureau médical. Et puis, il y a ceux que beaucoup de pèlerins à Lourdes voient de leurs yeux du cœur. Et pour les séminaristes, leurs formateurs, l'Église, le cardinal Stella qui est arrivé de Rome, ils ont été témoins de ce miracle de la communion. Bien sûr, il y a des diversités, il y a des profils différents, il y a des types de formation de séminaristes un peu différents, mais en même temps, ils sont tous en communion avec ce que propose le pape dans un texte qui s'appelle la ratio, c'est-à-dire le document qui organise la vie des séminaires. On a été tous, moi j'étais bien sûr là en 2014, nous avons été témoins d'une communion. Et l'intuition des supérieurs en préparant ce pèlerinage, c'était pas un hôtel ou un lieu d'hébergement pour un séminaire, mais ils ont brassé les séminaristes. Et des séminaristes ont pu échanger, partager et découvrir que leur passion, c'était la mission. Leur passion, c'était le Christ et les hommes à qui on pouvait annoncer une bonne nouvelle. Et ça, c'était vraiment une grâce qui a été donnée à Lourdes. Et nous en vivons encore aujourd'hui, moi qui participe régulièrement aux rencontres de séminaristes ou de leurs supérieurs, qui se voient très régulièrement chaque année, il y a vraiment une grâce de la communion et de la joie de servir l'Église et le monde.
Père Didier Noblot, nous marquons une courte pause dans cette émission. Juste après, avec vous, nous continuons ce dialogue, en particulier sur le synode qui est demandé par le pape François et qui souhaite qu'en octobre 2018, on fasse le point, on fasse remonter les paroles des jeunes sur, en particulier, le discernement vocationnel et la foi. Donc un synode pour les jeunes à Rome en 2018, on y travaille déjà. À tout de suite.
Découvrez le monde à contre-courant. Embarquez pour une balade radiophonique et partagez le quotidien d'hommes et de femmes à qui l'on donne peu souvent la parole.
Contre-courant. Offrez-vous des horizons insoupçonnés ou inconnus le mardi à 11h05 et le dimanche 18h30.
De passage à Lourdes.
Aujourd'hui, nous sommes avec vous, Père Didier Noblot. Je rappelle que vous êtes non seulement curé de paroisse, que vous êtes vicaire épiscopal dans votre diocèse de Troyes, mais aussi, et c'est à ce titre que nous vous avons invité, aussi directeur national adjoint du service de l'évangélisation des jeunes et des vocations. Et donc, cette perspective d'un synode appelé par le pape pour octobre 2018, sur en particulier les jeunes et les vocations, ça vous va bien, j'ai l'impression. Ça vous donne du travail.
C'est un
rendez-vous. Mais c'est une belle perspective.
C'est un rendez-vous formidable, un synode. Surtout quand on est à Lourdes, un synode, c'est quoi ? C'est la prise de conscience que c'est un peuple qui est en marche pour rencontrer son Seigneur et qu'il le fait ensemble. On pourrait dire que la modalité de la vie de l'Église, c'est le pèlerinage, c'est la marche ensemble. Pour ceux qui n'aiment pas les mots grecs, synodos, c'est voilà, marcher ensemble, et ben, pensons à pèlerinage. C'est l'Église qui est en pèlerinage quand elle va dans cette perspective du synode. En France, de nombreux synodes diocésains ont lieu en ce moment, ont eu lieu ou auront lieu. C'est toute une population qui se met en marche ensemble, qui réfléchit, qui fait des propositions, qui cherche les signes de l'Esprit-Saint. C'est un moment de grâce, un synode. Alors, depuis plusieurs années maintenant, nous serons là à la 15e assemblée ordinaire du synode des évêques à Rome, des délégués de toute la planète, évêques, des laïcs aussi, des jeunes, bien sûr. Le pape va convoquer tout ce monde-là à Rome en octobre, non pas pour faire un petit cabinet fermé et puis dire qu'est-ce qu'il faut faire pour les jeunes, mais laisser résonner la parole des jeunes qui est entendue depuis l'annonce de ce synode. Et en France, depuis notamment le 9 mars 2017, les diocèses, les communautés, les mouvements se sont appropriés des questions proposées par le secrétariat du synode pour apporter la parole des jeunes au pape. Le pape, l'Église, veut écouter les jeunes et recevoir la richesse même si ça bouscule. Rappelez-vous à Rio, et à, le pape disait « mettez la pagaille ». C'est-à-dire que le pape a envie de recevoir la richesse de la jeunesse qui dit quelque chose à l'Église. On dit souvent « les jeunes, c'est l'avenir de l'Église ». Mais non, c'est le présent aussi. C'est aujourd'hui qu'ils sont jeunes et qu'ils offrent le cadeau de leur jeunesse à l'Église.
Et en ce moment même, je disais, ça vous donne un peu de travail parce que vous êtes chargé, vous avec d'autres, de collecter un peu toutes ces paroles de jeunes qui ont été émises dans les différents diocèses et puis de faire remonter ça.
Évidemment, là, les auditeurs de Radio Présence ne voient pas devant nous en studio la pile des dossiers et
oui,
des contributions.
Moi, je vois.
Puisqu'en ce moment, effectivement, tous les diocèses font remonter au service national leurs contributions. Ils ont répondu à la quinzaine de questions pour dire qui sont les jeunes, comment on les écoute, qu'est-ce que l'on propose comme accompagnement, quels sont aujourd'hui les lieux phares d'une pastorale des jeunes pour les jeunes catholiques. Quels sont les lieux où se rassemblent les jeunes, qu'ils soient chrétiens ou non ? Voilà, toutes ces questions-là sont reprises et le Conseil des évêques de France a demandé au service des jeunes de collecter et de faire une synthèse pour qu'elle soit envoyée en octobre 2017 à Rome pour que le secrétariat du synode puisse recevoir ses contributions de tous les pays du monde. Comprenez bien que il y a quelques années, il y avait le synode pour la famille. On en a largement parlé sur vos ondes ici. Le pape a voulu, un peu dans la suite du synode sur la famille, un synode sur les jeunes. Et c'est lui qui a été très attentif à parler de vocation. Il ne voulait pas un synode que sur les jeunes, la foi et le discernement des vocations. Alors, on dit en raccourci, c'est le synode des jeunes. Alors, bien sûr, c'est la parole des jeunes qui est attendue. Mais c'est un synode qui concerne toute l'Église. Parce que la question des vocations, la question de l'accompagnement de la jeunesse, c'est une question pour tout homme, pour toute femme. Et comprenons bien que l'appel vocationnel n'est pas réservé à un bureau, à un service diocésain, à quelques prêtres ou religieuses qui seraient particulièrement charismatiques pour appeler. C'est toute l'Église paroissiale, les communautés, les mouvements qui doivent se sentir concernés par rayonner et résonner à l'appel de Dieu pour chacun.
Il peut en sortir quoi d'un synode ? Des décisions ? L'écoute, c'est formidable, c'est nécessaire, c'est important, mais le pape, vous pensez, alors sans être dans le secret, sans doute dans les petits secrets du Vatican, mais le pape veut faire quoi ensuite ? Que peut-il en faire ?
Moi, je vois trois grands fruits. Le premier, ce sera peut-être un texte qu'on appelle une exhortation apostolique, qui va rassembler tout ce qui s'est partagé avec des intuitions, des orientations. Voilà, ça c'est peut-être ce qui sera très concret, très matériel. Parce que dans quelques 20 mois, on pourra peut-être acheter l'exhortation apostolique du pape sur les jeunes, la foi et le discernement. Un des premiers fruits. Le second fruit, c'est un échange, une écoute, une confrontation de tous les pays du monde sur la question de la jeunesse et de la vocation. C'est formidable. C'est essentiel, c'est la mondialisation réussie, c'est une sorte de communion à l'échelle du monde. Et, là, la troisième fruit que je vois, et là que je vois déjà maintenant très concrètement en France, c'est l'occasion pour tous les responsables des jeunes et des vocations en France de relire l'action des jeunes et pour la jeunesse ici en France, relire leur pastorale des jeunes et des vocations, ce qu'ils font, ce qu'ils proposent, la rendre plus en phase avec la culture d'aujourd'hui et qui sont les jeunes et quelles sont leurs attentes, et renouveler leurs pratiques et faire des préconisations sans attendre le texte du pape. Il y a vraiment un fruit très très beau aujourd'hui dans les diocèses, les communautés, les mouvements, à recevoir tout ce qui se fait dans la pastorale des jeunes, entendre les jeunes, confronter cela et proposer des choses neuves.
Vous êtes à Lourdes en ce moment et vous les entendez, ces jeunes. Vous les recevez, vous les accompagnez, puisque à Lourdes, il y a un lieu justement dédié aux vocations et que vous contribuez à animer, vous et d'autres.
Et c'est le pavillon des vocations.
Voilà. Voilà. Et alors ces jeunes, parce qu'au-delà des synthèses, vous les côtoyez, ils vous interpellent très directement. Vous leur dites quoi et comment vous vous appuyez sur Lourdes, cette réalité ?
Pas plus tard que cette fin de matinée, j'étais avec des pèlerins de Poitiers, des jeunes pèlerins de Poitiers, des lycéens. Et après un temps d'animation et réfléchir sur l'appel, on s'est dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé pour Bernadette après les apparitions, là, juillet 58, il n'y a plus d'apparition ?»« Ah bah, elle dit oui, elle rentre au couvent. » Et j'ai essayé de leur faire prendre conscience qu'elle n'est pas rentrée au couvent tout de suite. Alors certains disent « Bah, elle est rentrée au couvent, elle a attendu un peu, 6 mois. » Un peu plus, un an, plus, 2 ans. Et ils ont découvert qu'il s'est passé 8 ans. 8 ans de discernement. Et là, on est au cœur de la question du pape pour ce synode. Dans ce monde où on veut que ça aille vite, il y a un problème, on veut une solution. Et les jeunes sont très pressés par la société, par la culture ambiance. Les parents, il faut réussir les études, il faut réussir un métier, il faut savoir ce qu'on veut faire plus tard.
Au bout de trois clics, on s'impatiente.
Exactement. Et on dit que ça va trop vite, mais c'est quand ça va pas assez vite qu'on râle, hein, quand le train est en retard. Ouh là là. Bon. Pour les jeunes, prendre conscience que le temps est un allié pour faire mûrir une décision. Et que c'est pas anormal qu'ils cherchent, qu'ils tâtonnent, qu'ils aient peur, qu'il y ait des freins, qu'il y ait des hésitations, peut-être même des fois des allers-retours. Bernadette, 8 ans de pression, de moquerie, d'attente, de recherche, de rencontre du Christ, de communion avec lui, elle qui fera sa communion juste au terme de cette grande séquence d'apparition. Et ça, c'est un message très contemporain, très pertinent pour les jeunes d'aujourd'hui. Et donc voilà, ce matin, par exemple, au moment où on a parlé de discernement, on a relu un peu ce moment de la vie de Bernadette avant qu'elle rentre à Nevers. C'est ce moment de mûrissement, d'attente. C'est pas du temps de rien. Moi qui suis un rural, hein, on tire pas sur le blé pour le faire pousser. Parfois, il faut attendre. Le temps est un allié, alors qu'on a l'impression que c'est le moment où rien ne se passe ou le moment qui oppresse. Le message de Lourdes et la présence de Marie qui nous conduit à son Christ ici, au Christ ici à Lourdes, c'est très très pertinent pour les jeunes. Ils se projettent dans Bernadette. Elle a leur âge, ou elle a quasiment leur âge. Tout ce qui est proposé ici, moi ça fait plus de 30 ans que je accompagne des groupes ici à Lourdes, il y a un message très pertinent. Il faut accompagner des groupes de jeunes à Lourdes. Il faut leur permettre de venir. Lourdes est un lieu phare pour leur appel au bonheur à chacun et pour un discernement vocationnel et notamment pour ceux qui pourront entendre un appel à la vie consacrée ou au ministère de prêtre.
Et puis, qu'est-ce que vous diriez aussi de la dimension service à Lourdes ? Sans doute que ça doit interpeller les jeunes.
Alors voilà, là je parlais simplement du temps. D'ailleurs, avec les malades, il faut du temps. Se mettre au rythme du malade, c'est pas aller vite, hein. Quand les jeunes accompagnent pour tel déplacement, pour telle petite course, pour telle célébration, faut arriver avant pour placer chacun, chacune de façon confortable. Le temps est formidable, mais bien sûr, Lourdes, tout est à Lourdes. Le service, la contemplation, une foi qui se célèbre, bien sûr, en esprit, mais aussi par des gestes concrets. Les jeunes sont très sensibles à mettre tout leur sens en action pour célébrer leur foi. Toucher le rocher, voir la lumière, marcher, gravir, monter au Béout, tous ces simples signes, gestes rejoignent leur expérience et leur permettre de vivre leur foi pas comme une idée, mais comme une rencontre. La foi, c'est pas l'acceptation d'une idéologie ou d'un chemin conceptuel. C'est concret, c'est la rencontre d'une personne. C'est l'expérience de Bernadette qui rencontre le Christ par sa grande catéchiste qui sera Marie. Et c'est l'expérience que peuvent faire des jeunes à l'eau et qu'ils le font. Parce que, en rencontrant un certain nombre de récits de vocation, de religieux, de religieuses, de couples mariés aussi, Lourdes a été décisive dans leur chemin. Parce qu'il y a du silence, parce qu'il y a de la contemplation, parce qu'on peut s'arrêter. Alors c'est là, petite parenthèse, je ne sais pas s'il y a beaucoup de pèlerins dans les auditeurs dans ce moment d'émission, mais parfois on presse trop les pèlerins à Lourdes. On veut leur faire faire plein de choses, tout faire. Venez souvent à Lourdes, chaque année, mais ne faites pas tout. Posez-vous de temps en temps. Et restez un petit peu dans aucune action. Moi, je suis quand même frappé. Bernadette, à la 9e apparition, c'est là où elle est moquée quand même. Elle gratte la terre, elle est barbouillée. Enfin, ça se passe pas très bien. Mais elle revient quand même le lendemain parce qu'elle a donné sa parole et elle sera fidèle à cette parole. Et le lendemain, Marie n'est pas là. Et je crois que là, c'est une expérience qui peut rejoindre tellement d'hommes et de femmes où on a cru et puis ça se passe pas. Il faut passer par ces moments-là. Et là, ça rejoint combien d'itinéraires de jeunes. Et je crois qu'on a vraiment un lieu phare pour les vocations ici à Lourdes.
Vous, Père Didier Noblot, quand vous voulez vous donner du temps, qu'est-ce que vous faites ? Parce que le curé de paroisse que vous êtes quand même est très actif, le responsable national que vous êtes également.
Eh bien, deux choses, ou trois peut-être. La première, c'est d'aller tous les 6 semaines au monastère pour prendre 24 heures de contemplation, de prière, voir mon accompagnateur spirituel, me confesser. Voilà, des choses très simples, mais voilà. Il y a un petit monastère bénédictin à 30 km de chez moi dans l'Aube, le monastère du Ménil-Saint-Loup. Voilà, ça c'est vraiment lieu de désert. L'autre aspect, c'est de retrouver des confrères prêtres dans une fraternité de prêtres qui s'appelle Jésus Caritas, la spiritualité de Charles de Foucault, prier ensemble, adorer le Christ, faire un partage entre nous. Et puis la troisième chose, c'est faire du sport, du badminton. Je suis pas un grand champion, je suis même plutôt médiocre, mais au moins ça défoule, ça fait transpirer et c'est jouer avec d'autres.
Pour terminer, on aimerait savoir comment faire pour se renseigner un peu plus sur ce synode appelé par le pape. Il y a, j'imagine, sur le site national de l'Église de France, il y a tout ce qu'il faut.
Voilà. Et puis, alors, dès maintenant, les jeunes, jusqu'au mois d'octobre, en direct, peuvent répondre à un questionnaire qui est en ligne par le secrétariat romain de ce synode. Donc, ouais. Le pape vraiment veut la parole des jeunes. Donc, vous mettez synode des jeunes 2018 sur un moteur de recherche et vous aurez vite accès sur le site du service national pour l'évangélisation des jeunes et les vocations. Vous avez aussi tout un dossier synode et je m'adresse aussi à des responsables ou à des adultes qui veulent aider leur paroisse, leur mouvement à entrer dans la dynamique du synode. Il y a tout un dossier, il y a le texte préparatoire. Mettez sur un moteur de recherche tous ces mots-clés dont on vient de parler depuis le début de l'émission et vous arriverez facilement pour pouvoir vous aussi participer à cette joie d'une église qui est en pèlerinage ou qui est en marche. Le synode, c'est moins un événement que la nature même de la modalité de faire église.
Merci beaucoup pour cette rencontre avec vous, Père Didier Noblot. Donc, directeur national adjoint du service de l'évangélisation des jeunes et des vocations. Et bon retour chez vous.
Voilà, merci. Merci aux auditeurs et merci à vous, Mathias.
Au revoir.
Présence, présence.
De passage à Lourdes.
Écoutez Présence, c'est votre radio. Soutenez Radio Présence, qu'elle devienne aussi la radio de beaucoup d'autres.
Oh,